on va flipper la caméra carrément.
Non, c'est mieux que je passe vers là-bas, dans le sens de la
porte. Ici, là-bas. Tu vas là-bas?
Ouais, ouais, je vais aller.
Ok, bien alors fait. On la met ici. Ouais. Comme ça. Alors, on va voir si la vue est bien. Ouais.
Non, la vue est très bien.
Non, on ne voit pas la TVA. Tu préfères qu'on voit la TVA? Il y a l'autre quel? Celui-là,
ah,
tu l'as activé?
Non, la TVA,
non, tu l'as activé, celui-là. Celui-là, tu l'as activé. Non, active celui-là.
C'est bon?
C'est les affiches d'Allo. On comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps.
C'est ça.
Just go into your account and we are done.
Alors, qu'est-ce que je fais là?
Alors, rentre en Zoom et active ton code. Ou tu veux, ou sinon tu peux rentrer à la
voilà.
Switch. Non, il enlève tout de suite, non, il enlève tout de suite. Mais quand c'est un milieu de distance, ok, c'est ça. Non, mais il gives you the back again.
Non, il est derrière. Je vais faire comme ça.
C'est bon?
On est bon.
Tu vois les deux côtés? Robert Fitchinson, tu vois les deux côtés?
Je vois.
Attends deux secondes. Participant 5. Ok, c'est bon. Tu vois le côté du Echal et le côté arrière? C'est bon.
Ok. C'est bon?
Alors, c'est bon.
Yofi. Yofi, parfait. Parfait. Alors, voilà. Alors, de votre point de vue, on a une vue magnifique. Chez moi, vous avez une vue magnifique sur ma cuisine. Donc, comme ça, c'est parfait. C'est génial. C'est-à-dire que moi, je prépare le kidouche. Et vous faites la Torah. Ça va, on est bien. C'est super. Top, les amis, je suis très, très, très ému et heureux de pouvoir… je sais pas, c'est pas le premier shiur dans votre nouvelle synagogue parce qu'il y a eu la bar mitzvah la semaine dernière. Ah, vous avez parlé de trois choses de Torah la semaine dernière, j'imagine. Mais bon, c'est un grand honneur, c'est un grand honneur. Et on va essayer de faire honneur justement à l'endroit et à la communauté. Donc justement… Le but de notre étude aujourd'hui, c'est de voir comment on va réussir à réaliser le projet, sinon pas le projet, un des projets centraux du don de la Torah. Et donc, j'aimerais qu'on voit à qui s'adresse cette Torah. Parashat Mishpatim, c'est la parasha qui fait suite à Yitro, évidemment, qui fait suite au Mahamad Arsinaï. Mais j'aimerais qu'on pose la question, à qui s'adresse la paracha? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette question? Et bien en fait, cette question, elle vient à cause de Rashi. Rashi, dans le début de la paracha, nous dit « Ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifneem » et voici les mishpatim que tu mettras devant eux. Et Rashi dit, à chaque fois qu'il y a marqué « Ve'ele », ça rajoute sur ce qui a été marqué avant. Lorsqu'il y a marqué « Ele », ça enlève ce qui a été marqué avant, mais lorsqu'il y a marqué « Ve'ele », eh bien ça rajoute ce qui a été marqué avant. Et la question, c'est la chose suivante, nous dit Rashi, « Ma'ele misinai, af'ele misinai ». C'est-à-dire, de la même façon que les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, eh bien, les Mishpatim aussi ont été donnés au Mont Sinaï. Le problème, c'est, ok, c'est très gentil Rashi, mais si tu ne m'avais pas dit ça, est-ce que j'aurais pu penser que la parasha de Mishpatim n'a pas été donnée au Mont Sinaï? C'est la suite logique. Il se passe 5 minutes entre la fin d'Yitro et le début de Mishpatim. Donc pourquoi est-ce que j'aurais pu imaginer que la parasha de Mishpatim n'a pas été donnée au Mont Sinaï? Eh bien pour une raison très simple. Commence la parasha en disant « Ki tikne eved ivri ». C'est-à-dire que le premier sujet abordé par la parasha, c'est le sujet de l'esclave juif. Attention, esclave juif, quoi? Est-ce qu'il s'agit d'un esclave que j'ai été acheté au marché aux esclaves? Eh bien non. Nous dit tout de suite, non, malheureusement, ça existait à l'époque. Et il y avait des esclaves juifs qu'on pouvait acheter au marché et tout ça. Mais là, ce n'est pas de celui-là dont on parle. Là, on parle, nous dira Rashi, et qui cite le Talmud, et on dira en fait, il s'agit d'un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser. Vous savez que la prison n'existe pas dans la Torah. Et donc, pour rembourser sa dette, il va faire des travaux d'intérêt généraux. Il est vendu par le Beit Din à une famille chez qui il a fait le dommage ou alors chez une autre famille. Il va travailler et comme ça, il pourra rembourser sa dette. Bon, très bien. Seulement tout de suite, pose la question. Mais attends deux secondes. Comment est-ce possible qu'il ait volé ? Il y a marqué dans les 10 commandements « Lotignov ». Il y a marqué « Tu ne voleras pas ». Donc, comment est-ce possible que lui, il a volé ? C'est pas normal. Et là, tout de suite, on va te dire, au niveau de la halakha, on va te dire, non, mais l'otignov dans les 10 commandements, ça fait référence au kidnapping. Il y a marqué l'otignov. Et donc, de là, on va commencer la paracha en te disant, la Torah, elle parle à tout le monde, à tous les membres du peuple juif, que tu la respectes ou que tu ne la respectes pas. Afalpi shechata Israël hu. Bien qu'il ait fauté, il fait quand même partie du peuple juif. On ne va pas te lâcher, mon ami. Ça veut dire quoi, on ne va pas te lâcher ? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à abandonner une partie du peuple juif parce qu'il aurait ou pas fait bien la Torah. La Torah, elle est pour tout le monde. Elle a été donnée à tout le Ham Israël. Je vous rappelle cet enseignement extraordinaire de Yonatan Ben Uziel. Lorsqu'on a vu la fin de la paracha de Yitro, on nous a dit « Atem reitem ki min ha-shamayim dibarti imachem. Vechol ha-am ro'im et ha-kolot. » Maze ro'im et ha-kolot. Et bien nous dit Yonatan ben Uziel, de la même façon que « Atem reitem » nous dit « Vous avez vu », nous dit Yonatan ben Uziel, les Bnei Israël ont vu comment la voix sortait de la montagne et rentrait de manière différente dans chaque oreille de chaque membre du peuple juif, en fonction de ce qu'il comprend. En d'autres termes, l'enseignement de la Torah, il est pour tout le monde. Oui, mais attention, à partir du moment où on a dit qu'il est pour tout le monde, eh bien, on a un problème. Parce que si l'enseignement de la Torah est pour tout le monde et qu'on comprend chacun différemment, comment on va faire pour se mettre d'accord ? Comment on va faire pour être tout le monde ensemble ? Eh bien, dans la paracha, nous avons énormément de versets qui vont traiter de la vie au quotidien, des litiges qu'il peut y avoir entre monsieur et madame. Nous dit la Gemara dans Maseret Baba Kama, « Amar Rav Yehuda, Haïman de Be'el Me'eve Chassida. » Comment deviens-tu chassid ? Eh bien, il y a un avis qui dit qu'il faut faire tout ce qui a marqué dans Maseret Avot. Ensuite, il y a un autre avis qui dit qu'il faut faire tout ce qui a marqué dans Maseret Brachot, mais l'avis retenu par Rav Yehuda, c'est qu'il faut faire tout ce qui a marqué dans Maseret Nezikim. Nezikim, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra Sanhedrin. Mais en fait, c'est quoi ces trois avis ? Il y en a un qui te dit, si tu fais ce qui a marqué dans Maseret Avot, tu seras un chassid de Ben Adam Le'atmo. Tu sauras quelles sont les midot à avoir dans le monde. Si tu fais tout ce qui a marqué dans Maseret Brachot, tu seras un tzadik chassid dans ta relation à Dieu. Mais si tu veux être un chassid dans ta relation aux autres, eh bien, il va falloir étudier Maseret Nezikin, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Metzia, parce que c'est là que tu vois la relation avec l'autre. Et là, nous apprenons un chidouche absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui est mieux ? De faire du bien à l'autre ou de ne pas lui faire du mal ? Et c'est une grande question.
Une grande question.
Mais bien sûr. Alors, dans la société occidentale, on dit qu'il vaut mieux faire du bien à l'autre. Mais en vérité, d'après la Torah, ne pas faire du mal à l'autre, c'est plus racide que de lui faire du bien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en ne lui faisant pas de mal, c'est-à-dire en ne rentrant pas dans ses black bands, eh bien, tu lui permets d'être libre. Tu lui permets de s'exprimer. Si tu lui fais un cadeau extraordinaire, disons, je ne sais pas moi, tu lui as acheté une voiture. C'est génial, Todaraba, tu lui as acheté une voiture. Oui, peut-être que lui, il n'avait pas envie de cette voiture-là. Maintenant, il n'a plus le choix. Alors évidemment, il va te dire merci, tout ce que tu veux. Mais quelque part, tu es rentré dans son intimité. faire du bien à quelqu'un, bah, évidemment, s'il est dans le besoin, il est dans le besoin, mais vous le savez bien, au niveau de la halakha, qu'est-ce qui vaut mieux pour quelqu'un qui est dans le besoin? Est-ce qu'il vaut mieux lui donner de l'argent? Matana? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en secret? Ou est-ce qu'il vaut mieux lui donner un prêt qu'il remboursera? Eh bien, il vaut mieux lui donner un prêt. Comme ça, il se sent libre. Et il dit, je te rembourse. C'est pas un cadeau. Tu m'as aidé, d'accord, mais je vais te rembourser. En d'autres termes, la Torah nous dit, il faut que tu gardes à l'esprit deux choses. La première, on est tous ensemble, mais on a chacun une expression différente. Ça, c'est possible uniquement si on comprend que la Torah, elle est fondamentalement d'abord orale et non pas écrite. On a l'habitude de penser que la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Mais les amis, je suis désolé de vous dire que c'est faux. La Torah a été d'abord orale et ensuite seulement écrite. Prenons un verset que tout le monde connaît. D'abord Hachem el Moshe les morts, d'abord el Bnei Israël, va Marta Alehem, va Soulaem Tzitzit. Donc, parasha Tzitzit, Dieu l'a donné à Moshe. Une fois que Dieu a fini de donner la parasha à Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dire au Bnei Israël de faire des Tzitzit. D'abord el Bnei Israël, va leur dire. Donc Moshe a été leur dire. Et si un jour, à ce moment-là, tu demandes aux Juifs, tu demandes à M. Harry qui est en train de faire ses Tzitzit, mais pourquoi tu fais tes Tzitzit? Eh bien, il va te dire, parce que Moshe, il m'a dit. Et il va te demander, le journaliste, mais c'est marqué où? Réponse, c'est marqué nulle part. Ah, plus tard, Moshe, il va rentrer dans sa tente et il va écrire. Mais ça, c'est plus tard. C'est-à-dire que la Torah, elle est fondamentalement d'abord par oral. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dans notre paracha, eh bien, ce verset incroyable. Veikar Sefer Abrit. Donc, dans le chapitre 24, on dit Vaikar Sefer Abrit, Vaikra Beozne Aam, Vayomru, Kol Asher Diber Asher, Naase Venishma. Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Et ça, vous savez, c'est un verset que tout le monde connaît, Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Comme si il y avait un idéal d'être un petit peu bête dans la Torah et de faire sans comprendre. Non, Dieu nous a d'abord parlé. Kol Asher Diber Hashem, donc j'ai compris quelque chose. Et une fois que j'ai compris quelque chose, je vais faire et je vais comprendre encore mieux en faisant. Mais j'ai d'abord compris une certaine dimension de la Torah. Nous dit ici le Talmud dans le traité de Gittin. Amar Rabbi Yochanan, dans le traité de Gittin à la page 60. Amar Rabbi Yochanan, lo karat akadosh baruch hu britim Israël, ella Bishvil Dvarim Shebealpe. Sheneemar, ki alpi adevarim, aele karati et brit veet Israël. C'est-à-dire que l'alliance, elle est faite, ima Torah Shebealpe. Et l'âme, pourquoi est-ce que c'est si important la Torah Shebealpe? La Torah orale, la transmission de génération en génération. Eh bien, c'est fondamental pour plein de raisons. La première, nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari, il nous dit quelque chose d'intéressant. Mahamar Bet, Mahamar Sheni, le roi des Khazars, il dit, est-ce qu'on peut parler un peu des Karaïmes, des Karaïtes? Bon, à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, ils sont très présents. Donc, ces gens qui ont rejeté la Torah écrite, la Torah orale, c'est ça. Ils n'ont accepté que la Torah écrite. Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, bah, tu veux que je te dise la différence entre nous et les Karaïtes? C'est très simple. C'est que nous, on peut manger ensemble Shabbat. Nous, on peut s'inviter les uns les autres. Alors que chez les Karaïtes, comme ils n'ont pas de tradition, chacun comprend le verset autrement et personne n'a confiance en personne et personne ne peut aller manger chez son prochain. Ah, chez nous, les Juifs, ça ne pourrait pas arriver que deux Juifs ne puissent pas manger ensemble pour des problèmes de cacheroute. Pourquoi ça ne peut pas arriver, nous dit Rabbi Yehuda Halevi il y a 900 ans? Bah, ça ne peut pas arriver parce qu'on a une tradition. Et que donc on est sûr qu'on sait comment on faut manger kasher. Eh bien, la tradition, c'est la chose la plus importante, c'est celle qui va maintenir la cohésion du peuple juif. Vous savez, il y a à peu près 500 ans, il y a plein d'un groupe de juifs comme ça qui sont arrivés voir Rabbi Moshe Isserles, le Réma, le Shulchan Arour des Ashkenazim. Il est venu le voir, enfin ce groupe-là est venu le voir et on dit, on a entendu dire qu'il y a des gens dans une communauté un petit peu éloignée qui boivent le vin des Goïm. C'est terrible. Alors vas-y, fais un grand texte, comme ça tu les exclus de la communauté, qu'on ne peut plus être avec eux, machin. Et le Réma, dans un livre qui s'appelle « She'elot u'tshuvot haRéma »,« Shoot haRéma », dans le shoot 124, dans la question 124, il répond et il dit « Bon, d'abord, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas bien de boire le vin des Goïm. Aval, j'ai quelque chose à vous dire et j'ai peur de le dire. J'ai peur que si je le dis, les gens vont penser que je suis en train de permettre. Mais d'un autre côté, j'ai peur que si je ne le dis pas, les gens vont se tromper dans la base du judaïsme. Alors, je le dis quand même. » Et il dit, bien que je sois contre et que j'ai expliqué pourquoi je suis contre, « Yesh lahem al milismor » et le plus important, c'est de ne pas les exclure du peuple juif. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, voire même, ce n'est pas parce qu'ils ont tort qu'on va les exclure du peuple juif. Je prends cet exemple de Kashrout parce qu'il est marqué dans notre paracha. Dans notre paracha, vous avez ce verset que tout le monde connaît, le fameux « Lo tevachel gedi bechelev imo ». Seulement, deux secondes, quand est-ce qu'il apparaît dans notre paracha ? Est-ce que vous vous rendez compte quand est-ce qu'il apparaît ? Il apparaît dans le verset, dans le chapitre 23, verset « Yuttet ». Mais quand on regarde quand est-ce qu'il apparaît, on a l'impression qu'il est « out of the world ». Il sort complètement de tout. Pourquoi il est là ? On nous dit, regardez, « Shalosh regalim tachog li bashana » Et chaga matzot, tishmor, shivat yamim, tochal matzot, kasher tziviticha, le moed chodesh ha'aviv, kibo yatsata mimitzrayim. Donc on nous parle de Pessah. Velo irae panai rekam. Donc très bien. Vechaga katsir, bikure ma'asecha, asher tizra basade. On parle de Shavuot. Vechaga asif, betzet ha'shana, beospecha et ma'asecha min asade. Donc on te parle de Sukkot. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est les fêtes. Quel rapport maintenant Shalosh pa'amim bashana irae kol zechurecha et pene ha'adon Hashem. Il faudra que trois fois par an, tu vois Akadosh Baruch Hu quand tu vas au Bet HaMikdash. Ok. Lo tisbach al chametz dam zifri. Ça, c'est en rapport avec Pessah. Lo yalin chelev chagiat boker reshit bikure admatecha tavi Bet Hashem Elohecha. C'est en rapport avec les bikurim, avec Shavuot. Et là, on te dit lo tevashel gedi bechelev imo. Mazekashur. On t'a parlé des fêtes, et maintenant on te parle de ça. Les amis, comme vous le savez, le Lote Vachel Gedi Bechelev Imo, c'est le verset de base de toute la cacheroute. Quand est-ce qu'on le voit ? Eh bien, on le voit qui vient faire la conclusion d'une série de versets qui n'a que pour but de nous séparer des goïms. Les fêtes. Zeshelanu. Et on va même te donner, pour être sûr que c'est de ça qu'on parle, un verset de Halakha par rapport à la fête qui fait contre les goïms. À Pessah, les goïms avaient l'habitude, à cette époque du renouveau, eh bien, ils avaient l'habitude de quoi ? De faire un sacrifice et de l'échol à la dame. De manger avec le sang et de s'approprier les forces, machin. Lo tisbach al chametz dam zifri. Nous, eux, ils font ça, nous, on ne fait pas ça. Reshit bikure admatra. Quand les goyim, ils avaient le début de leur chant qui était comestible, eh bien, ils faisaient une grande fête pour manger. Toi, tu dis non, reshit bikure admatra, ta vie bet Hashem Elohecha. Les bikurim, tu les amènes à Kadosh Baruch. Et nous dit Rabbi Yitzhak Abrabanel, Rabbi Yitzhak Abrabanel, son commentaire de la Torah, il dit « Ouais, mais alors quel rapport entre Lote Vachel Gedi Bechelev Imo et Sukkot ?» Eh bien, nous dit Abrabanel, c'est extraordinaire, il dit « Kmochen achare iyun basfarim akadmonim » Il dit « J'ai étudié dans les sfarim » Il dit « Ok, alors ?» Eh bien, il dit « Y a marqué « Nimtza barur shaya minag az etzel ovde kochavim » Il y avait un minag chez les goyim Kayom roim shebemalchut Angleterre, en Angleterre, on fait toujours ça. Mamshichim oto aminag shebastav aroim ochlim gedi bechalav lechvod chag aroim. Il veut dire en Angleterre, il y a toujours ce minag-là que à l'automne, les bergers ils font une fête qu'ils appellent la fête des bergers. Ils mangent un gdi bechalav, un agneau, enfin un chevreau dans du lait. Donc nous, on te dit dans la Torah, lote vachel gedi bechalav imo. Mais attendez deux secondes. Donc ça veut dire que ce verset vient conclure une liste de choses qui nous séparent des goyim. Parce qu'en fait, c'est ça la cacheroute. La cacheroute, c'est quoi ? C'est comment se séparer des nations et donc nous rapprocher les uns les autres au sein du peuple juif. Parce que si ta cacheroute, comme disait Manitou, ta cacheroute te cache la route, et qu'à cause de la cacheroute, eh bien, tu vas te séparer de ton ami, ou alors pire, tu vas te séparer de tes parents. Parce que toi, tu as fait tchouva, alors maintenant tes parents ne mangent plus assez cachère. Et donc, tu ne vas plus manger chez tes parents. Chas v'shalom. La massorette. Je ne te dis pas que tu as le droit d'aller manger pas cachère, bien évidemment. Mais la massorette, elle va faire que ça va être beaucoup plus facile de rester ensemble. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Lote vachel gedi bechelevimo ? Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne cuisineras pas l'agneau, enfin gedi, c'est, ouais, c'est un agneau, hein, dans le lait de sa mère. Mais question, comment tu sais qu'on parle de lait ? Parce qu'il y a marqué chala. Non, mais comment on sait que dans le verset. Je suis d'accord. D'accord, mais pourquoi dans le verset, comment je sais qu'on parle de lait ? Ben oui, mais pourquoi ce ne serait pas chelev ? Tu sais, la partie de graisse qu'il y a dans la queue qu'on n'a pas le droit de manger. Il n'y a pas les points dans le Sefer Torah.
C'est vrai.
Donc, comment tu sais qu'il y a marqué chalav et pas chelev ?
Attends, ça c'est une bonne question.
Hein ? Je vais te dire mieux que ça. Comment tu vas lire dans la paracha cette semaine ? Tu vas lire Lotev Hashem Gedi Bechalev Imo. C'est les deux, c'est un mix. C'est chalev. Elle n'en devine. Bah, tu sais d'où on sait ? Massoret. Massoret Torah Shebe Alpe, que on sait que ça, ça veut dire le lait. En d'autres termes, tout ce qui va faire la cohésion du peuple juif, eh bien, c'est la Massoret. C'est tout simplement la Torah Shebe Alpe. La reine, il y avait une question qui avait été posée à l'époque du Rambam. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se sont éloignés du judaïsme et qui ont voulu se convertir au christianisme ? Le Rambam, il est très clair. Il dit, pour les gens qui sont les premiers d'entre eux qui ont fait fauter les autres, il faut être extrêmement intransigeant. Mais pour le juif qui ne connaît pas grand-chose et qui s'est laissé influencer, il dit, il faut essayer de le ramener par tous les moyens. Parce qu'il est un membre à part entière du peuple d'Israël. Mes amis, c'est de cela qu'on est en train de parler. La nécessité de rattacher le peuple juif. Nous dit Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, dans son livre Sefer Haïkarim, nous dit la chose suivante. « Ve'od lefi she'i efshar she'tiye Torah Hashem Yitbarach shelema be'ofen she'taspik lekol hazmanim » C'est pas possible que la Torah écrite elles tiennent pendant toutes les générations. Pourquoi ? Bah parce que la Torah écrite, elle parle à une génération bien précise. Elle a été donnée il y a 3500 ans à des gens qui sortent d'Égypte. Et donc, il y a plein de choses dans la Torah écrite qui ne sont pas expliquées. Parce que c'était évident pour eux, mais qu'ils ne le sont pas du tout pour nous. Inès, je vais devoir aller à un mariage lundi, et on va lire la Ktouba, et on va dire que dans la Ktouba, il s'engage à donner le Khatan « Kemohar Abetoulot ». C'est comme ce qui a marqué dans la Torah « Kemohar Abetoulot ». Mais on ne sait pas ce que c'est, nous, « Mohar Abetoulot », la dot. Combien c'est ? Il n'y a pas marqué dans la Torah. Parce qu'à l'époque, tout le monde le sait. Et donc, la Torah orale, elle est obligée de nous expliquer c'est quoi « Mohar Abetoulot ». En d'autres termes, nous dit Rabbi Yosef Albo, ici, je continue, il dit « לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בענייני האנשים כמשפטים והדברים הנפלאים הם רבים מאוד. Chaque génération, il a ses nouveaux débats, ses nouveaux conflits, ses nouveaux problèmes, sa nouvelle technologie. Comment est-ce que tu crois qu'il y a tout qui va être marqué dans un bouquin qui a été donné il y a 3500 ans ? C'est pas possible. Donc, eh ben, c'est Biglal Ze, Alken, Nitenu, le Moshe Besinai, Alpe, Dvarim, Kolelim, Kol la Torah Kula. Moshe a reçu la Torah orale qui va transmettre à Yoshua, qui va transmettre de génération en génération, qui va faire qu'on va pouvoir savoir quand on va inventer l'électricité, ben est-ce que c'est Kasher Shabbat ou est-ce que c'est pas Kasher Shabbat ? Parce que vous savez bien que Moshe, il ne savait pas comment on utilise une plata. Est-ce que la plata, c'est clérigione, c'est clichéni ? Est-ce qu'on a le droit de poser, de reposer ? Est-ce qu'on a le droit de mettre quelque chose de mouillé ou pas quelque chose de mouillé ? Kol ze itril im Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez forcément de cette agada fantastique où Moshe Rabbeinu, le Kadosh Baruch Hu, lui dit : écoute, toi, je te kiffe, je te permets de faire un petit voyage temporel, tu peux aller dans toutes les générations, aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et il rentre par une porte dans le Beit HaMidrash de Rabbi Akiva. Et il entend Rabbi Akiva faire un shiur. Et Moshe ne comprend pas. Il est en train de parler de quoi ? Il est en train de parler des tagim, des couronnes qu'il y a sur les lettres dans le Sefer Torah. Et Moshe ne comprend pas. Et il commence à devenir tout blanc. Il dit, c'est pas ce que j'ai enseigné. Et à un moment donné, il y a un élève qui demande, Rabbeinu, minayin lechazot, d'où tu sais tout ça ? Et Rabbi Akiva, il dit, alacha le Moshe misinai. Ma alacha le Moshe misinai. Moshe, il est là et il ne sait pas. Et la Haggadah, elle dit que Nachadato, que Moshe, il était content. Et moi, j'aurais été à la place de Moshe, je me serais levé, j'aurais dit, mais j'ai jamais dit ça. Mais pas du tout. Bon, c'est pour ça que c'est pas moi qui ai été choisi pour être Moshe. Mais en tout cas, Bébet, comment Moshe, il sait ? En fait, Moshe, il comprend une chose fondamentale. Lui, il transmet la Torah. Il devient un tuyau qui transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'il est tout à fait conscient de transmettre. Et il y a des choses qu'il ne sait pas qu'il est en train de transmettre. Mais l'élève, lui, il a compris. L'élève, lui, il a reçu. Vous savez, c'est comme le Rav Kook. Il écrivait, il n'a pas écrit les livres qu'on connaît du Rav Kook en mode ordonné. Lui, il écrivait. Et ses deux grands élèves, son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, et son autre élève, le Rav Anazir, le Rav David HaKohen, qui ont mis en page, si tu veux, ordonner les livres. Et lorsque le Rav Anazir, il a fini la première version de Orot HaKodesh, il l'a donné au Rav Kook, il l'a lu, et là le Rav Kook, il a dit, ah, ben maintenant je comprends ce que j'ai marqué. C'est-à-dire, grâce à toi, je comprends ce que j'ai dit. En vérité, qui est en train d'accoucher de qui ? Est-ce que c'est le Rav qui accouche de l'élève, ou est-ce que c'est l'élève qui accouche du Rav ? Socrate avait l'habitude de dire « Ma mère, elle était sage-femme et elle accouchait des corps. Moi, j'accouche des esprits. » Alors, c'est très philosophe grec, mais nous, on ne dit pas ça. Comment on appelle chez nous un Rav ? Un Rav, on l'appelle un Talmid Chacham. C'est-à-dire qu'il est Talmid Shel Ben Adam Chacham. Il est l'élève de quelqu'un qui était sage. En d'autres termes, quand Harry va enseigner le droit à la fac, comment on sait que c'est un bon prof ? Parce qu'il y a 3000 élèves qui se battent à l'intérieur de l'amphi. Donc on sait que c'est un bon prof. Mais dans l'âme Israël, quand il enlève sa casquette de droit et qu'il met sa casquette de Talmid Chacham, la question n'est plus de savoir combien il y aura d'élèves au cours. La question est de savoir de qui il a reçu sa Torah. Shelmi a Torah azot, c'est qui ton maître ? Et c'est pour ça que vous remarquez que nous, quand on parle d'un grand personnage, on dit, regardez, vous avez vu ce Rav, c'était l'élève de...
Voilà.
Parce qu'en fait, elle n'est pas à nous, la Torah. Nous, on transmet quelque chose. Et il est possible que l'élève, il entende des choses que nous, on n'a jamais su qu'on avait dit. C'est ce qui a marqué noir sur blanc dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Hourkanus. Rabbi Eliezer ben Hourkanus, Le Talmud nous dit que le Olam lo amar davar shelo shama mipi rabo. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas appris de Rabban Yochanan ben Zakkai, son maître. Et un jour, il y avait une grande fête. Il dit, Perkei de Rabbi Eliezer, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a vu que est venu à la fête Urkenus, le père de Rabbi Eliezer, qui lui avait mis des bâtons dans les roues au début, il ne voulait pas qu'il étudie la Torah sous Dieu. Et donc, pour montrer qu'il a eu tort, eh bien, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à Rabbi Eliezer, allez, fais-toi le Dvar Torah. Tu vas montrer à ton père ce que tu sais. Et Rabbi Eliezer, il a dit, mais Rabbi, ça ne sert à rien. Tout ce que je sais, ça vient de toi. Il lui a dit, Bechol Zot. Et Rabbi Eliezer, il a fait un Dvar Torah et nous dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, Shelo, ce qu'il a dit, Lo Shma'an Ozen Me'olam. Aucune oreille n'avait jamais entendu ça, y compris les oreilles de Rabban Yochanan ben Zakkai. En d'autres termes, l'élève vient d'accoucher du Rav. Il vient de faire prendre conscience de ce qui était passé par le Rav, même si le Rav, lui, n'en avait pas conscience. Eh bien, les amis, tout ça, c'est les fondements même du judaïsme dans ce qu'on appelle Torah Shebealpé. La Torah Shebealpé nous permet de rester connectés de génération en génération et entre nous également. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque un juif errant de Pologne, comme moi, va venir dans une synagogue de juifs marocains comme chez vous.
Errant aussi.
Ben, quoique tu l'as appelé Echal Shlomo, la choule. Donc Echal Shlomo, c'est vraiment c'est le pont directement avec Jérusalem, ça. Et la question, c'est, moi, je vais rentrer dans la synagogue, je vais être choqué. Je vais être choqué. Je vais dire, c'est pas une synagogue, ça. C'est pas de chez moi. Je ne peux pas prier ici. D'abord, ils ont mis les bancs tout autour de la Teva. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Une synagogue, c'est comme une église. Il y a les bancs qui sont les uns derrière les autres. Et la Teva, elle est devant. Donc, c'est peut-être pas. Et puis après, je vais les entendre chanter. Et je vais dire, attends, c'est pas. Hein ? Moi, je. Les Cosaques en Pologne, ils ne chantaient pas comme ça. Donc, c'est pas ça.
Les Cosaques qui pleurent.
Non. Tu rigoles. J'ai fait un chiour hier. Pour moi, c'est hier. Hier soir. Pour vous, c'était il y a quelques heures. J'ai fait un chiour. J'enseigne à un groupe, un petit groupe de jeunes comme ça. La Gemara. Et je leur enseigne le Amud Yomi. Pas le Daf Yomi, parce qu'ils n'arrivent pas autant. C'est des gens qui n'ont jamais étudié la Gemara, plus ou moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vous raconte l'anecdote, il y a, en fin novembre, si je ne me trompe pas, ou début décembre, je ne me rappelle plus exactement la date, je suis parti en Pologne, accompagner une école pour guider là-bas. Et, alors moi, je fais le Daf Yomi, et pendant le voyage, on est arrivé à la fin du traité de Ta'anit. Donc, j'ai fait le Sioum là-bas avec les professeurs, machin. Et le lendemain, on commençait Maseret Megillah. Alors, il y avait un mec qui était à côté de moi, un de ces mecs-là de ce petit groupe. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Viens, commence avec moi. C'est pas long, Megillah, c'est pas trop difficile. Viens, on commence. Alors, ça a tenu une journée. Et c'est parce qu'on était dans le bus tous les deux, et donc je ne l'ai pas lâché, on a fait le DAF. Mais après, on est rentré en Israël et chacun truc. Et donc, on a arrêté d'étudier. Enfin, lui, il a arrêté d'étudier avec moi. Et au bout de 2 semaines, je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui se passe ? On arrête ? Et avec un groupe donc de 4 autres personnes, je leur ai dit, allez, venez, on se remet et on fait une Amoud par jour. Cette année, il y a 2 Hadar. Donc, comme ça, on aura le temps et on fait Sioum à Pourim.
Et on le fera avec toi, d'ailleurs, hein, parce que je fais Amoud Yomi avec ma fille, ma sœur Latmekila.
Eh bien, tu vois.
Avec l'école.
Eh bien, c'est extraordinaire. Eh bien, voilà, fantastique. Alors justement, on a étudié donc… Il y a quelques heures. Donc on a étudié machin dans notre Limoud, et de quoi on est en train de parler là-bas dans le Hamoud Yomi. On est en train donc d'étudier Maseret Megillah et on essaie de comprendre qui que quoi qu'est-ce. Et je leur explique un truc fondamental au niveau de la Megillah et des Ashkenazim et des Sfaradim. Je leur dis, tu sais, c'est quand le moment préféré des Ashkenazim dans la lecture de la Megillah? Il y a deux moments qui sont les moments préférés des Ashkenazim. C'est quand on change l'air et qu'on reprend l'air de Tisha B'Av. Ah là, les Ashkenazim sont contents. Là, tu les fais pleurer, ça les fait kiffer. C'est le moment où on dit que Achashverosh, il a sorti les Kelim du Beth Amikdash. Alors là, on change et on te dit « Mekalim, Mekalim Shonim ». Alors là, là, les Ashkenazim, ils sont en folie. On leur a fait du Tisha B'Av, ils sont contents. Edma la Hassot, les amis, quand je vais arriver dans ta Sina, je vais entendre la liturgie, je vais dire « Mais c'est pas de chez moi ». Et tout d'un coup, je vais regarder Torah chez BLP. Je vais regarder, mais d'où ça vient la transmission? Et je vais entendre que même si ce n'est pas le même air, c'est les mêmes textes. Et même si après, je vais avoir plein de marlokotes au niveau de la halakha, on va faire un repas de folie pour Shabbat et tout. Et je vais leur dire, non mais attends deux secondes, comment ils m'ont préparé leur thé là? Klisheni, Klishlishi, Ashkenazim, Sfaradim, Shulchan Aruch, Rema. Et même si moi, je vais être possède qu'un autre truc, je vais me rendre compte que ce que eux ils font, c'est pas qu'ils ont rejeté la Torah, c'est leur façon de s'attacher à la tradition d'Israël. Et c'est pour ça que je vais pouvoir quand même manger avec eux. Alors quel est le danger de ce que je viens de dire? Parce que ça c'est une phrase que je pense est une belle phrase, mais il y a un danger. Et vous connaissez ça mieux que moi aux États-Unis. Bah, il y a des mouvements aux États-Unis qui disent bah, justement, puisqu'on va être tous ensemble, on a tous le droit d'avoir une façon de comprendre la Torah, y compris le monde Reform. Hein? On a aussi une compréhension de la Torah, c'est pas la même, on n'a qu'à être ensemble. Pour qu'une compréhension de la Torah, qui n'est pas la même que la mienne, soit légitime, il y a une seule condition à remplir, une seule. C'est que je m'inscrive dans la transmission de la tradition de génération en génération. C'est-à-dire que lorsque j'entends que toi, t'es possèque, je ne sais pas moi, comme le Rif, et pas comme le Roche. Je sais que le Rif, c'est Kadosh Elion, et je sais que c'est un rabbin orthodoxe qui s'inscrit dans la Torah de Moshe. Alors c'est vrai, moi je suis plus possèque comme le Roche, mais le Rif, c'est bon, ça passe. Donc même si au final, moi chez moi, je ne fais pas pareil, je sais que ce que tu fais, c'est kasher. Mais à partir du moment où tu dis, moi le Rif, bah, il est sympathique, mais si moi j'ai une autre compréhension au 21e siècle, eh ben, je me détache de ça et puis c'est pas grave. Ben, à ce moment-là, ça ne devient pas légitime. Donc, si tu veux, le mouvement libéral réformé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas légitime à nos yeux? Parce qu'il a coupé sa compréhension de la transmission de la tradition de génération en génération. En d'autres termes, la Torah chez BLP, c'est elle qui nous permet d'être tous ensemble. Et ce n'est que lorsqu'on est tous ensemble qu'on va pouvoir se connecter véritablement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que dit ici le Rav Kook dans le livre Oroth Israël. Il dit comme ça, « Zivuga shalim de Knesset Israël bekutcha berichu » l'union parfaite entre Knesset Israël, Am Israël, et à Kadosh Baruch Hu. « Haynu, haishtavut haratzon shemitgale bauma bichlala » comment est-ce qu'on voit cette union? C'est l'expression de la volonté du peuple juif. Il y a la halakha qui nous est transmise par les rabbins et il y a l'expression de la volonté profonde du Ham Israël qui très souvent précède la halakha. Eh bien ça, c'est l'union totale entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Blama, parce que cette volonté profonde, nous dit le Rav Kook, « Bam bi yesod nishmata » c'est dans la base même de sa neshama. Et donc, une fois que tu as laissé s'exprimer cette neshama, eh bien, tu as fait le lien entre lui et nous. Et c'est exactement ça. Lorsqu'on nous avait dit, tu veux être un chassid, tu dois apprendre ce qui est marqué dans Maseret Nezikin, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. En fait, c'est pourquoi faire. Pourquoi c'est bien de ne pas porter atteinte à ton prochain? Parce que comme ça, ensemble, vous allez pouvoir être libre de vous exprimer et ensemble, on va pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu. J'aurais simplement, pour terminer, que vous compreniez à quel point ces trois Masertot de Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, qui sont des Masertot très compliqués, très techniques, En fait, leur rôle, c'est de dévoiler Echad. Comment commence Maseret Baba Kama? Elle commence par Arba Avot Nezikim. C'est-à-dire qu'on est Mefuzarim Be'arba Kanfot Haaretz. Une fois qu'on a terminé Maseret Baba Kama, alors on s'est réunis. On n'est plus Mefuzarim Be'arba Kanfot Haaretz. Et donc la première Mishnah de Maseret Baba Metzia, c'est Shnaim Ochazim Betalit. Zekvarlo Arba, Zeshnaim Ochazim Betalit. זה אומר מצטיה, וזה אומר מצטיה, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. בסדר, on a tous, à un moment donné, dû se casser les dents sur ces mishnayot-là. D'ailleurs, rappelez-moi, c'est qui les premiers qui se sont disputés avec Shnei Ochazim Betalit? C'est quoi la halakha? Deux secondes, on fait un peu de pile-poule, ça ne peut pas faire de mal à cette heure-là.
Non.
C'est quoi? Toi, tu tiens un talit, moi, je tiens un talit. Où est-ce qu'on coupe? Parce que la Mishnah nous dit Shnei Ochazim Betalit, dans les deux qui tiennent, eh bien, Yachaloku. On va la couper, machin. Mais ce n'est pas ce que je tiens. Ce que je tiens, c'est à moi. Ce que lui, il tient, c'est à lui. Imagine, nos deux mains se collent. Alors, on coupe au milieu et il n'y a aucun contact entre nous deux. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je tiens à un endroit, toi, tu tiens de l'autre côté. Et toute la partie au milieu, on va se la partager. Eh bien, les premiers qui ont fait ça, c'est Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu donne les louchot à Moshe, c'est dans notre paracha, eh bien, Moshe récupère les louchot. Seulement, on nous dit la Gemara, les louchot, elles faisaient 6 tfachim. Et Moshe, il tenait 2 tfachim, et Akadosh Baruch Hu, il tenait 2 tfachim. Donc, il y avait 2 tfachim au milieu. Yachaloku. C'est-à-dire qu'il y a une shutafut maintenant entre la Torah qui est donnée dans les cieux et qui arrive ici. Shnei Ochazim Betalit. Et donc, une fois qu'on est passé de 4 à 2, eh bien, on peut arriver à la Masechet Baba Batra, qui dit quoi? Ashutafim sheratzu la'asot mechitza achat bachatzer. Bonim et akotel ba'emtsa. Anachnu kvar lo shnaim. Anachnu shutafim vebonim mechitza achat. Et donc, tout le rôle de Masechet Nezikin, de Mishpatim, de Parashat Mishpatim, est de faire en sorte qu'on puisse ensemble dévoiler le Echad ve'yachid ve'en bilto. Et ainsi, nous chal la'agid kol asher diber Hashem na'ase ve'nishma. Shabbat, shalom, lekulam.
Shabbat, shalom, kvod arav, exceptionnel. Deux choses je voulais te dire. D'abord, on vient de recevoir